les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone, votre émission culturelle internationale. Aujourd'hui, de la poésie avec un grand artiste, un ovni littéraire et une révélation de la rentrée. C'est un ovni littéraire, un livre qui va vous interroger, vous surprendre, vous allez adorer ou détester. L'écrivain algérien Boualem Sansal prend un gros risque avec un roman qui joue avec le conte philosophique et qui porte un regard global sur les dangers du monde, une méditation interculturelle. Bonjour Bernard Lavillier.
Bonjour.
Je vous vois curieux déjà, vous êtes vous-même un passionné de littérature et de poésie. Vous publiez un recueil de textes, vous avez choisi une centaine de chansons dans votre répertoire. Vous aussi, vous êtes parfois dans la réflexion philosophique, dans la méditation, quand vous écrivez une chanson?
Parfois, pas toujours, mais... Certaines chansons, oui. C'est la suite, ou alors c'est au milieu que ça se produit. La Grande Marée, qui est un texte qui est là-dedans, que j'ai écrit en 70,
ouais,
m'a demandé beaucoup de concentration de ce type-là. Ouais. Je ne suis pas tellement sûr d'être capable de me mettre dans la position du zen et faire « om » avant d'écrire. C'est pas trop mon style.
Non. Bernard Lavillier est dans la librairie francophone cette semaine. Adeline Dieudonné, retenez bien ce nom, est la révélation littéraire de cette rentrée 2018. Elle est belge, elle publie un premier roman acide sur la violence familiale, en lice pour le prix Goncourt et pour le prix Renaudot. Et puis nous rendrons hommage à Rachida, disparue subitement mercredi. Artiste complet, c'était un passeur francophone, un poète algérien sensible au patrimoine musical et à la communion culturelle entre les peuples.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont avec nous en multiplex, comme toujours. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Bruxelles, dans la librairie La Licorne. Tout va bien pour vous, Déborah?
Mais tout va bien,
bien, Emmanuel. C'est le retour de Jérémy Laniel cette semaine pour représenter le Canada, libraire à Rosemère, dans la librairie Carcajou. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel.
Où est Rosemère, tiens, pour ceux qui n'habitent pas le Québec? Rappelez-nous.
Sur la rive nord de Montréal, dans les Basses-Laurentides, c'est relativement une banlieue assez dormante, mais avec des lecteurs fort sympathiques.
Très bien, merci Jérémy. Autre retour, et grand retour, Laura Sanchez de la librairie du Boulevard à Genève. Bonjour Laura.
Mais bonjour Emmanuel.
Ravie de vous retrouver pour représenter la Suisse, Laura.
Mais moi aussi.
Soyez la bienvenue à nouveau. Bonjour Sophie Todescato.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire en France, à Orléans, dans la librairie...
Les Temps Modernes.
Et voilà. Merci à vous. Et bonjour Adeline Dieudonné.
Bonjour.
Vous êtes une jeune auteure belge, la révélation de la rentrée littéraire francophone. Vous publiez La vraie vie aux éditions L'Iconoclaste. C'est un roman qui tient en haleine et qui est effrayant. L'histoire d'un foyer au père violent, chasseur, porté sur le whisky, caractériel. Il a été traumatisé lors de son enfance, c'est ce qu'on comprend. Et puis, il y a vos deux personnages, deux enfants, une fillette et son petit frère, qui vont être à leur tour traumatisés. On n'en sort pas des traumatismes de l'enfance?
Non. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui se répète. Une sorte de boucle dans le roman, oui. Donc, voilà. Il y a la première année, il se passe un événement traumatisant qu'on va pas révéler, hein, je pense.
Non.
Voilà. Et après, le bouquin s'articule sur 6 étés de la vie de ses enfants.
Donc, on suit leur évolution.
On suit leur évolution.
Ils grandissent. Ouais. Difficilement, dans la violence toujours. Il y a le père qui bat sa femme, il est capable comme ça de lui écraser la tête dans une assiette de viande trop cuite. Il aime beaucoup la chasse, le sang, la mort animale, c'est sa passion.
Oui, en tout cas il a une vision de prédateur. Il se positionne vraiment en tant que prédateur par rapport à sa famille, par rapport à sa femme et par rapport à ses enfants. Pour lui, je pense que dans son esprit, il est un grand prédateur.
Ouais, vous faites un parallèle hasardeux, si je peux me permettre, Adeline, parce que vous mettez en parallèle plutôt, c'est plus juste, l'image du chasseur avide de viande, avec l'homme violent qui bat sa femme.
Mm-hmm.
Quel est le rapport?
Non, en l'occurrence, c'est le personnage est comme ça. Non, je fais pas de parallèle. De toute façon, je pense qu'il y a autant d'hommes qui battent leur femme qu'il y a, enfin, je dirais,
il y a pas.
Donc il y a de chasseurs, exactement.
Bernard.
Vous êtes
chasseur, Bernard Lavillier?
Ah non, pas du tout.
Non, pas du tout.
Il n'y a pas un seul... Enfin voilà. Et les chasseurs, ben oui, pareil, il y en a plein de toutes les sortes. Maintenant, c'est vrai que je suis toujours un tout petit peu effrayée de voir ces images de safari comme ça, où on voit des mecs posés sur le cadavre d'un... d'un animal, ouais, d'un lion, d'une girafe.
Mais c'est ce qu'il fait d'ailleurs, lui.
Ouais.
Alors c'est un livre assez gore, comme on dit, mais il y a en contrepartie beaucoup de tendresse entre frères et sœurs. La fillette protège son petit frère le plus possible, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus, on va pas tout dire non plus, mais à un moment elle ne peut plus.
Voilà, mais elle, effectivement, elle a, je pense qu'elle a un peu pris le rôle de la maman qui est très effacée et qui s'est un petit peu résignée par rapport à son mari. Et par rapport à ses enfants, elle s'en occupe pas beaucoup. Donc la fillette, elle prend un petit peu ça en charge. Elle a son petit frère qui a 4 ans de moins qu'elle. Et donc il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Voilà, jusqu'au moment de l'accident où il y a quelque chose qui va changer chez lui.
Il va assister à un truc horrible.
Voilà, il va être profondément traumatisé.
Chez
elle
un
aussi.
Marchand de glace. Et on s'arrête là.
Voilà, exactement. Bon. Mais donc, c'est la perte de l'innocence, l'enfance qui s'éteint brutalement.
Très étonnant, hein, comme premier roman. C'est votre premier roman, l'une de vos premières grandes radios. Donc voilà, c'est très compliqué pour vous, mais c'est un livre qui est salué par la critique et qui commence à avoir une sacrée réputation auprès des lecteurs. On va écouter la BO du roman. On vous a demandé quelle musique illustre le mieux votre livre. Alors là, incroyable, Bernard Lavilliers va être surpris comme nous. Vous avez choisi le groupe Rammstein, groupe de métal allemand. On écoute un extrait, vous nous expliquez juste après. Donc Adeline Dieudonné, ça laisse présager du pire hein, pour votre roman, mais c'est vrai que c'est un peu ça, ouais, c'est vrai.
C'est tellement bon, j'adore. C'est, ben voilà, il y a le côté, il y a la menace. Je trouve que c'est cette chanson-là de Rammstein particulièrement, il y a quelque chose de très menaçant dans la voix du chanteur et une énergie de dingue qui moi m'aide à écrire. Donc moi j'écoute ça très 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 fort. Celle-là notamment m'a beaucoup accompagné dans l'écriture de La Vraie Vie.
Oui, Bernard Lavilliers.
Non, c'est ce que je lui ai demandé en réalité, si ça l'aidait à écrire, parce que c'est pas une musique a priori, mais ça dépend des gens. Hein. Peut-être qu'il est possible que le fait qu'il soit très fort en même temps, ça vous puisse vous concentrer sur votre écriture, et le silence serait défavorable.
En tout cas, ça crée une énergie chez moi. Ça mobilise très très fort et cette énergie-là me pousse à écrire et à écrire peut-être avec cette énergie qu'on retrouve, j'espère, dans le roman.
Ah, complètement, oui. Alors c'est très bien construit hein, comme roman, vraiment bien mené. Il va séduire un large public, j'en suis sûr. Nous allons voir si c'est le cas de nos libraires. Il y en a 3 qui ont lu votre roman, Adeline Dieudonné, la France, la Belgique et la Suisse. On commence par qui ?
Ah bah la Belgique, hein.
Bah, allons-y, Déborah Damblon, en Belgique.
Ah bah oui, évidemment par moi. Eh bah moi, je me suis pris une grosse claque en lisant votre bouquin. Mais j'ai été absolument conquise par la force, par l'originalité de votre écriture surtout, parce que je trouve que vous arrivez littéralement à faire jaillir les personnages et les situations du récit. Alors Mazette, mais quel sens de la formule et quelle énergie sauvage, parce que on s'y croirait, même si franchement, on préférait ne pas y être. Je suis sortie de votre roman remontée à bloc, complètement soulagée de ma propre vie et avec une envie dévorante de le partager et de le faire lire à tout le monde autour de moi.
Bien, Mazette, Sophie Todescato, oui. Quel est votre avis ?
Écoutez, c'est un vrai premier roman, c'est-à-dire qu'abracadabra, comme ça par enchantement, s'il y a des petits défauts, ils sont transformés tout de suite en vitalité et vraiment en qualité. Et la qualité principale de ce livre, c'est la voix de cette gamine vraiment qu'on entend puissamment, on l'entend et puis on a vraiment peur pour elle. Alors, je suis pas forcément très amatrice de ces atmosphères à la Nothomb, dont on vous rapproche beaucoup pour la noirceur, le saugrenu, mais là, vous parvenez à emmener votre roman dans une direction vraiment qui vous appartient. Bravo.
Merci beaucoup.
Là, vous parlez d'Amélie Nothomb. Moi, je pense à Anne-Sylvie Sprenger, que je salue au passage, qui est une auteure suisse et qui a comme ça des livres effrayants, comme ça absolument bouleversants. Et justement, on part en Suisse, tiens, Laura Sanchez. Êtes-vous d'accord avec vos collègues ?
Mais oui, moi j'ai lu ce livre d'une traite et je me suis sentie complètement électrique pendant les heures qui ont suivi ma lecture, à peu près comme si j'avais écouté du Rammstein à fond pendant une journée entière.
Je vous conseille pas. Hein.
Voilà, non. Enfin, c'est, si, non. Et puis, bah, c'est vrai que moi j'ai été frappée par vos personnages qui sont très crédibles malgré leur étrangeté et leur outrance. Il y a entre autres ce père qui m'a beaucoup fait penser à celui du livre de Sorge Chalandon qu'il a écrit sur son enfance. Mm-hmm. Un vrai livre choc.
Profession du père, hein, je crois, Sorcha Landon, ouais, c'est ça. Alors, vous questionnez le concept comme ça de famille dans ce livre, Adeline Dieudonné. Comment une famille peut-elle se souder autour des repas, du quotidien, de la transmission aussi? Là, pourtant, ça vrille. Il y a quelque chose comme ça qui empêche ce bonheur familial. Qu'est-ce qui empêche ça dans une famille, dans certaines familles?
Ouf, j'imagine qu'il y a plein de situations différentes. J'aurais pas de réponse toute faite par rapport à ça.
Mais vous avez enquêté, vous avez vécu des choses pour écrire des choses pareilles, non?
Non, non, j'ai eu une super enfance, très très heureuse.
Vraiment?
Oui, vraiment.
Alors vous avez pioché où tout ça?
Je suis partie du principe que chez le papa, il y avait quelque chose, il y avait une profonde blessure, il y a quelque chose qui l'empêchait d'aimer. Il était envahi par sa colère. Colère qui, effectivement, donne des indices qui viennent de son enfance, du fait que lui-même n'a pas eu de papa, voilà. Quelque chose dans la transmission. Mais donc, effectivement, il est en colère et il sème la terreur dans cette famille. Mmh. Et c'est ça qui empêche l'amour. Une cohésion familiale.
La violence faite aux femmes, vous questionnez aussi hein, ce sujet-là, à la mère dans un premier temps, puis à la fillette sans trop en dire, mais il y a surtout la violence sur les animaux, qui est tout le temps là. C'est vraiment le fil rouge, les animaux se font massacrer dans votre livre, tout le temps. C'est un roman sur la souffrance animale aussi?
Oui, je ne l'ai pas anticipé, ce sujet-là.
Mais c'est récurrent.
Oui, et je pense que ça doit correspondre à une réflexion dans laquelle j'étais au moment où j'écrivais. C'est-à-dire que c'est vrai que je me pose beaucoup de questions sur notre rapport aux animaux, parce qu'on en est, nous aussi, des animaux, un peu à part, mais je trouve qu'on a tendance à se positionner, à s'opposer au règne animal, à considérer qu'on n'en est pas. Et voilà. Et c'est vrai que pendant que j'écrivais, j'étais en pleine réflexion sur pourquoi on mange de la viande, pourquoi on se permet de les élever dans des conditions épouvantables, de les tuer.
Enfin, vous avez pris les sujets dont on parle en ce moment, quoi.
Ah, peut-être bien.
Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est un roman qui est ancré dans l'actualité.
Oui, ouais. Oui, tout à fait.
Vous l'avez voulu comme ça?
Je ne l'ai pas voulu, je n'ai pas cherché, mais je pense que je suis influencée forcément par... J'ai aussi écrit en plein hashtag MeToo, ce qui explique probablement le sujet de la violence faite aux femmes. Clairement, oui.
On va terminer avec une petite curiosité culinaire. La mère s'occupe des animaux et elle cuisine. Et elle prépare, vous en parlez deux ou trois fois, elle prépare des pêches au thon. Alors, petite curiosité culinaire pour ceux qui ne sont pas belges, car c'est une spécialité belge. Qu'est-ce que c'est la recette des pêches au thon?
Je n'ai même pas réalisé que c'était une spécialité belge.
Vous connaissez
belge.
Bernard, les pêches au thon?
Non, pas du tout, non.
Eh bien, bizarrement, je vous jure, c'est bon. C'est-à-dire que...
Bah allez-y, alors c'est quoi?
Bah c'est une demi-pêche, vous savez, les pêches qu'on a
en
boîte à conserve. Oh oui, mais en général,
en boîte
oh les trucs au sirop, là.
Ouais.
Et dans lesquels on prend du thon qu'on mélange avec de la mayonnaise. Et on met ça sur la pêche et on mange ça ensemble. Et je vous jure, c'est bon. Il faut essayer.
Bon, je préfère, moi, les tomates crevettes grises à choisir.
Qui est aussi une spécialité.
Voilà, exactement. Merci Adeline Dieudonné. Merci. La vraie vie est parue aux éditions L'Iconoclaste. C'est votre premier roman. Vous avez déjà reçu 2 prix. Et vous êtes en lice pour le Goncourt et le Renaudot. Bonne chance pour la suite.
Merci beaucoup.
Merci à vous. À suivre, Bernard Lavillier et notre hommage à Rachida, mort cette semaine à l'âge de 59 ans. Avant cela, voici la chanteuse corse Clara Luciani avec son nouveau titre, extrait de son premier album. Merci d'écouter la librairie francophone à travers le monde. Clara Luciani. On ne meurt pas d'amour dans la librairie francophone. On me dit que Clara Luciani a fait votre première partie, Bernard Lavilliers.
Exact, à Saint-Florent, oui.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
On est en train de préparer une surprise pour Boilem Sansal et je crois que bon, bah voilà, la surprise est
cuite. Non, c'est bon.
Non, c'est bon, ouais, il découvrira tout à l'heure. Oui. Il a compris en tout cas. Bernard Lavilliers est avec nous pour la deuxième fois. Vous étiez venu avec Jean-Claude Carrière, entretien que l'on peut d'ailleurs retrouver dans la librairie francophone estivale, diffusé cet été en podcast. Cette fois, vous êtes là tout seul pour un livre. Je n'ai pas une minute à perdre, je vis, est paru au Cherche Midi. Vous avez pioché dans vos albums pour choisir une centaine de chansons, les plus poétiques d'entre elles. Et vous dites que si vous chantez, c'est en partie grâce à Léo Ferré.
Oui, en partie. Et ça peut être aussi grâce à Monk, Thelonious Monk, parce que mon père écoutait du jazz. Il était abonné, vous savez, à des collections qu'on recevait, donc vous receviez 4 vinyles. Et mon père, c'était un jazzman. Enfin, il aimait vraiment le jazz et la musique cubaine. Donc voilà. Donc en partie à cause de Léo ou pour, j'en sais rien. Très jeune, j'écoutais. Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes, qui ne vivent pas, c'est selon la saison.
La chanson en poésie, c'est ça que vous aimez, Bernard Lavilliers. Ouais, une chanson réussie, c'est une grande chanson à succès qui intègre de la poésie.
Ah, pour moi, oui. Ouais. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je mets plein de poètes en musique, ou que j'en dis des fois, comme Omar Khayyam, je peux le dire sur scène, les Roubayats. Omar Khayyam, un peu oriental, hein, perse, vers chez vous, là. J'adore.
Et Boilem Sansal.
Oui. Qui était à la fois, je crois, mathématicien, etc.
Ah oui, oui, ils étaient tous.
Astronome.
Ouais, ils faisaient tout.
Pythagoricien. Et il écrivait des courts poèmes de 4 vers. Magnifiques. Vous voulez que je vous en dise un, là, en passant?
Bah, si vous voulez.
Le plus beau poème d'amour, hein, que je connaisse. Aucune chanson d'amour n'est aussi belle.
Allez-y.
Ça dit ça. Un peu de pain, un peu d'eau fraîche, l'ombre d'un arbre et tes yeux. Aucun sultan n'est plus heureux que moi. Aucun mendiant n'est plus triste.
Une robe de cuir comme un fuseau qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. Cet extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. Cet extra.
Omar Khayyam enchaîné avec Léo Ferré.
Ça marche très bien.
Ça marche très bien, vous avez vu? C'était imprévu, mais c'est vous qui l'avez lancé, cette séquence, finalement.
C'est Omar Khayyam, il est peut-être du 12e siècle, je ne sais plus exactement.
C'est une référence pour vous, Bernard Lavilliers, cette chanson-là, cet extra. Vous dites aimer les grandes chansons comme ça, populaires.
C'est une grande chanson populaire, très très bien écrite. Il cite les Moody Blues, alors peut-être que je ne suis pas sûr qu'il aimait les Moody Blues, entre nous soit dit. Il préférait Debussy, Ravel, enfin je l'ai bien connu, Léo. Mais en attendant, il y a une dimension esthétique dans cette chanson qu'on appelait un slow dans le temps. C'est une mélodie française, accompagnée avec un orgamon assez, c'est bien foutu l'arrangement, franchement. Les chœurs sont assez rigolos. Enfin, vous voyez, dans pas mal de chansons de variété, je suis désolé pour Léo, à ta mémoire, c'est très variété, ces chœurs, mais ça va très bien. Même les cordes. Donc l'arrangement, il ne donne rien de dans le pathos, quoi. C'est l'arrangement très variété de l'époque, met la chanson sur un plateau d'argent.
Vous avez beaucoup d'admiration aussi pour le poète franco-suisse Blaise Cendrars, dont vous avez repris le Transsibérien sur votre album Baron Samedi, sans doute votre album le plus poétique. Et puis sur cet album, il y a l'une de vos plus belles chansons, Bernard Lavilliers. C'est l'illustration, selon moi, parfaite de la chanson poésie. Ce titre, c'est Vivre encore.
Quand tu n'entends plus dans ton cœur trop lourd battre ton sang noir, voiler les tambours, et quand le soleil comme une blessure, fais place à la nuit, quand la mort rassure. Faut vivre encore. Combien de ratures, combien de nuits blanches, pour toucher de près ce chant qui monte. Ce qu'il faut de sang pour donner la vie, ce qu'il faut de temps pour toucher l'oubli. et vivre encore. Vivre encore. Vivre comme un cri. Cri du sang. De l'amour aussi. Vivre ailleurs. Survivre ici. La bataille.
Vivre encore de Bernard Lavilliers qui figure dans le livre, le texte a été retranscrit. Alors ce qui est très étonnant, je trouve, c'est que c'est le seul texte reproduit dans une police de caractère manuscrite, comme un poème écrit sur une feuille. Et c'est vrai que c'est une chanson parfaitement lisible, je dirais, comme un poème. Et dans le livre, on a la sensation de lire un poème.
Bon, c'est-à-dire, comme dirait Segers, il y a quand même un jeu de ping-pong entre la chanson populaire bien écrite et la poésie. Il y a pas mal d'intellectuels de haut rang qui ont dit « Ah ben non, la poésie n'a rien à voir avec la chanson ». Je suis désolé, mais la poésie a à voir avec la chanson. Très souvent, les premiers troubadours utilisaient des poèmes, ou étaient même eux des grands poètes, Charles d'Orléans, Rudebeuf, il y en a d'autres, François Villon, l'assassin, et, oui, il y en a plein. Donc finalement, Segers, le plus grand éditeur, je suis désolé, mais c'est vrai, de poésie, qui nous a fait découvrir les poètes d'aujourd'hui, il a préféré poèmes et chansons, dans des bouquins format poche, qu'on peut avoir dans sa poche. J'ai toujours mon petit, effectivement, mon Sandras dans la poche. Et je trouve que c'est quand même très beau. Alors là, c'est l'écriture manuscrite, c'est la mienne.
Ah, c'est la vôtre.
Ouais. Et voilà. Donc, bon, on pensait que c'était bien d'en avoir un, simplement.
On va voir du côté de nos libraires qui ont lu votre livre, Bernard Lavilliers, ce qu'ils en pensent, avec le Canada et la Suisse. On commence par qui ? Tiens, le Canada ou la Suisse ?
Canada, pardon.
Canada, Jérémy Laniel, c'est à vous.
Oui, mais j'ai beaucoup de difficultés à me placer quant à ce livre. Hein. J'ai l'impression que c'est comme une offrande pour les fans, et ce fan que je ne suis pas. Donc, le livre est bien mis, c'est tape à l'œil. Quelques excès de typos, ça et là, mais on les comprend. Mais j'ai vraiment l'impression que les chansons sont d'ailleurs plus efficaces à l'écoute qu'à l'écrit, malheureusement.
Mais il n'aime pas trop les livres avec des chansons, Jérémy. Hein. On a déjà reçu plein d'artistes comme ça, et Alain Chamfort, je ne sais plus qui, il y avait Yves Simon aussi. À chaque fois, il les taille, je ne sais pas pourquoi. Il taille les livres des artistes.
Mais c'est bien, pourquoi pas, c'est taillé.
Laura Sanchez, en Suisse, vous n'êtes pas d'accord?
Ben, moi, il me semble aussi que ce livre s'adresse surtout aux connaisseurs de votre travail, Monsieur Lavilliers. Mais c'est vrai que lire ces textes tout nus, c'est quand même une belle découverte ou redécouverte. On y côtoie un homme engagé qui fait face au monde, armé de ses mots et de poésie. Et puis, ben, l'objet est plutôt réussi, très coloré et très graphique.
Ouais. Et puis surtout, ces chansons sont remplies de voyages, Bernard Lavilliers. Comme Daniel Balavoine le faisait aussi d'ailleurs, vous nous faites découvrir le monde avec vos chansons. Vous avez par exemple parfaitement décrit ce qu'est un samedi soir à Beyrouth. Pour ceux qui sont allés à Beyrouth un samedi soir, c'est exactement ça, entre la crainte de la violence et puis la fête, comme si c'était la dernière fête. Vous racontez ça, vous chantez ça merveilleusement.
Bah, je l'écris sur place, c'est quand même plus simple. Et c'est bon, le samedi soir à Beyrouth, il y a énormément de gens qui viennent des pays du plus loin, donc parce qu'ils n'ont pas le droit de boire d'alcool dans leur pays. Ils sont donc sur cette autoroute qui longe l'aéroport, n'est-ce pas ? Et ils sont entassés, et il y en a beaucoup dans des voitures blindées, parce qu'ils ont, en général, ils ont du fric. Et c'est très bizarre, l'impression que ça fait. C'est-à-dire que, au fond, ils peuvent ni avancer, ni reculer, ni prendre à droite, ni prendre à gauche. Et s'il y avait un drone qui passait par là, ça serait terrible. C'est déjà arrivé souvent. Et c'est ce samedi soir à Beyrouth qui est un peu mélancolique pour moi, où on fait la fête à tout prix, comme si la guerre allait reprendre le lendemain.
Comme si c'était la dernière, c'est vrai. On a cette sensation-là, comme si c'était la dernière fête.
C'est-à-dire que les Beyrouthins, l'idée n'aurait pas vraiment sorti de l'esprit pour l'instant.
Ouais, bien sûr.
Et encore aujourd'hui, vu ce qui se passe en Syrie, enfin, etc.
La chanson est-elle un moyen pour vous, Bernard Lavilliers, d'inciter le public, les citoyens, même d'une façon générale, à découvrir la poésie ?
Ah, j'essaye. Ça m'arrive de temps en temps que quelqu'un vienne me serrer la main en me disant « Grâce à vous, j'ai lu Sandras. Grâce à vous, j'ai acheté Aragon. » D'autres poètes que j'ai mis en musique, comme Segers. Il y a des gens qui commencent à acheter du Segers. Je pense que, moi, c'est un plaisir hein, pour moi. C'est pas un devoir. Attention. C'est un vrai plaisir. Comme j'ai pu redécouvrir ou découvrir certains poèmes de Rimbaud, quand Léo Ferré a mis Verlaine et Rimbaud en musique. Très beau disque, d'ailleurs. Et je pense qu'il y a des poèmes qui se chantent. Pas tous, mais il y en a.
Des poèmes qui se chantent, des poèmes qui alertent aussi, qui dénoncent, vous, quand vous chantez Noir et Blanc, La Main d'Or, ou plus récemment Croisière méditerranéenne, vous nommez les choses, Bernard, vous bousculez les consciences.
C'est-à-dire, j'ai jamais imaginé une seconde que les gens qui prenaient les croisières Costa allaient sauver les gens de Syrie qui étaient sur des bateaux à partir de la Libye, si vous voulez. Et, d'une part, parce qu'ils sont au 25e étage de leur paquebot, Ensuite, qui sont avec une jolie blonde, ils sont en train de boire du champagne, pendant qu'en dessous, dans des zodiacs plus ou moins improbables, il y a des gens qui coulent éventuellement. Et c'est pas pour les, c'est pas une histoire de culpabilisation. C'est simplement, j'ai ramené ces deux réalités, un peu comme les surréalistes. Et finalement, c'est la même Méditerranée, pourtant.
Ouais. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des murennes, très loin des sirènes italiennes. Tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, les vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer.
Croisière méditerranéenne, l'un des derniers titres de Bernard Lavilliers en 1979. Bernard, dans l'album Pouvoir, vous écriviez « La peur, c'est le corbeau penché sur le devoir. C'est du papier moné contre le désespoir. C'est de la dérision face à la misère noire. C'est depuis le début le chantage du pouvoir. »
Ouais, bien envoyé.
Ouais, en 79.
N'est-ce pas ?
Oui, carrément.
D'ailleurs, ça recommence. Hein.
Ouais.
La peur et de tout temps a été le chantage du pouvoir. Et là, on assiste à une... Ils nous en remettent une couche. Alors, ce que je trouve le plus scandaleux, c'est qu'on... Moi, quand j'étais môme, le terme populiste, c'était pratiquement une insulte. Hein. Populiste, c'est démagogie...
Ça l'est un peu encore. Hein.
Non. Bah, si. Ça y est, c'est rentré dans le langage courant.
Ouais, on essaye, mais ça reste un peu...
Ah bah, en tout cas, ce qui me concerne, hein. Et peut-être bon, nos auditeurs aussi.
Mais... On va parler de la crainte du futur, de la peur de l'ennemi aussi, avec Boualem Sansal, à qui nous réservons une surprise avec vous. Vous allez donc rester en plateau, Bernard Lavilliers. Votre recueil de textes, de chansons, Je n'ai pas une minute à perdre, je vis, est paru au Cherche Midi.
La librairie francophone.
Il nous a quittés brutalement, soudainement. Rachita est mort. C'est incroyable à dire et pourtant c'est la triste nouvelle de cette rentrée. Il préparait un nouvel album et commençait une tournée. Mais dans la nuit de mercredi, dans son sommeil, son cœur s'est arrêté. Rachita était un grand francophone algérien, portant la culture française à Lyon, puis dans son quartier métissé de Paris où il vivait, tout en valorisant le patrimoine musical algérien, à l'image de ce titre, Yahaya, l'une des chansons les plus populaires du répertoire Chaabi de la musique algérienne, composée et interprétée dans les années 70 par le grand Dahman El Harichi. Rachita, formidable artiste, homme de scène, bon vivant, multipliant les excès, mais toujours dans un grand respect et une grande gentillesse envers l'autre. Un jour, il était venu en direct dans l'une de nos émissions. En montant au studio un peu avant 18h, je l'ai trouvé endormi sur le canapé rouge que nous avions au fond, comme ça, derrière le plateau. Rachid s'est tranquillement réveillé, sous mes yeux effarés et inquiets, à 3 minutes de l'antenne. Il m'a salué, toujours avec la même chaleur, et il a fait une interview expiègle, pleine de générosité. C'était ce jour-là, écoutez. Alors en tout cas, dans vos chansons, on ressent de la nostalgie, presque de la mélancolie dans ces fameux titres de ces stars de la musique arabe.
Mélancolie, mais jamais nostalgie.
Pardon ?
Mélancolie, mais pas nostalgie.
Ah, d'accord. On choisit quoi ? Mélancolie ?
Mélancolie.
Très bien. Alors, il y a beaucoup de mélancolie dans votre musique, Rachita. Et il y a cette touche, ce côté rassembleur. Comme si vous vouliez que le public soit en communion, qu'il s'unisse même avec vous au-delà des origines et tout autour des notes de musique.
Oui, ça c'est l'esprit trans, en fait ça vient de,
c'est ça.
Ouais, ça vient de ma culture. Et puis de toute façon la musique a toujours été quelque chose qui véhicule la joie, qui a toujours accompagné des événements, c'est-à-dire ou c'est la mort, ou bien c'est le mariage, ou bien c'est la circoncision, enfin ça a toujours été des événements joyeux normalement. Donc on peut raconter des choses tristes, mais en même temps la musique reste toujours festive et puis le corps a besoin de bouger, c'est-à-dire que enfin, moi, je suis maghrébin, tu vois, et on est africain quand même. Mais le rythme, s'il n'y a pas de rythme, s'il n'y a pas ça ne swing pas, on s'emmerderait.
Mais c'est presque religieux, ça, comme démarche. Mais se recueillir autour de l'homme, autour de la vie.
Oui, mais la musique, c'est ça. C'est ceux qui faisaient la musique, c'est les marabouts, c'est les sorciers, c'est les chamans, c'est de la médecine, hein. Ça vient de. Voilà. Lorsqu'on voit ce qui se passe à l'heure actuelle, moi l'autre jour, je m'amusais à regarder un journal où ils décryptaient un peu les émissions de radio, de télé, etc. Lorsque je voyais des questions et les réponses, on voit que de la haine, on parle, il y a que de la haine et du cul. tous les jours. Alors je me dis, mais on en est où là? Et on a la culture de la médiocrité, voilà. C'est ça qui me fout les boules, et je pense que de temps en temps, si on peut dire des choses qui puissent exprimer quelque chose, puis faire avancer les choses sans insulter l'autre et sans lui montrer son derrière.
Alors justement, vous dites des choses très sérieuses assez souvent. Vous avez dit récemment que nous vivons de plus en plus dans des ghettos communautaristes.
Ouais.
On nous enferme de plus en plus entre nous.
Ça fait peur.
Entre religions, entre classes sociales.
Oui, tout à fait.
Et vos chansons, Rachida, elles vous ont aidé en tout cas à exprimer, à évacuer ce genre d'injustice mal digérée par vous?
C'est la base de ça d'ailleurs, le groupe avec, d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'appelait Quart de Séjour.
Quart de Séjour, oui.
Donc c'était une volonté de parler des choses sociales et une volonté politique, oui, tout à fait.
Rachida, c'était en 2007 dans l'émission Escale Estivale. Bernard Lavilliers, la mort de Rachida, quelques jours avant ses 60 ans, a surpris tout le monde. Il aurait eu 60 ans le 18 septembre. Il parlait de vous comme d'un cousin lointain, un Hulk au grand cœur, je cite.
Ah, il a dit ça?
Ouais.
Oui, bah écoute, c'est un peu le François Villon des Minguettes. Les Minguettes, c'est un fameux quartier de Lyon, vous savez. Il a vécu là-bas d'ailleurs. Et j'ai toujours trouvé qu'il avait un côté comme ça, très poétique dans la vie, beaucoup d'humour. Mon fils a été son batteur pendant des années. Je crois que ma fille avait été un peu sa manageuse. Oui, un cousin, Hulk le cousin, c'est-à-dire parce que je faisais de la boxe.
Ouais.
Mais moi, j'ai toujours trouvé que lui, il avait une générosité et une certaine façon d'aborder. Quand il a mis Douce Offrance en musique sur un rythme oriental, en exagérant exprès l'accent, j'ai trouvé ça sublime. Enfin, c'est un niveau qu'on atteint rarement. Ouais. Parce qu'à la fois, quand on décrypte le texte à écrit Charles Trenet, en ce qui concerne Rachid, Douce France, c'est pas tout à fait la même douceur. Non.
Ouais. Il disait que Noir et Blanc aussi, votre chanson, est selon lui l'une des plus belles chansons contre le racisme. C'est vrai qu'il ne tarissait pas d'éloges à votre égard. C'est étonnant parce qu'on a cherché des choses qui vous rapprochaient de lui et on a trouvé énormément de citations de Rachida sur vous.
C'est vrai?
Ouais.
Mais je pourrais en dire pas mal sur lui.
Bah oui, si vous êtes là pour ça.
Ce qu'il lisait déjà, il lisait de la poésie lui aussi, Rachid. Il avait quelque chose comme ça. Il me disait, ton fils est vraiment un mec bien. Et mon fils joue très très bien de la batterie. Et il jouait avec lui, et il m'a redonné la vie. C'est-à-dire qu'à un moment, Rachid, et vous savez qu'il était assez malade hein, quand ouais, même, ouais. Depuis longtemps, une maladie génétique.
Une maladie orpheline, oui.
Orpheline,
ouais. Dont il ne parlait jamais d'ailleurs.
Moi, ouais, je l'ai su par mon fils, autrement il ne m'aurait jamais dit. Donc, il se tenait sur scène, hein. Et c'est mon fils qui leur donnait envie de monter sur scène, parce qu'il y a des fois, il souffrait tellement que ça le mettait dans le désarroi total. Et monter sur scène, c'est dangereux, hein. Je vous le dis tout de suite.
Un homme généreux, en tout cas, qui pouvait vous faire signe comme ça sur scène. Je l'ai vécu à la Fiesta des Suds à Marseille. Vous voyez dans le public, vous avez signé, il était en plein concert. Il était incroyable, Rachida. On a de grands souvenirs avec lui. On va écouter un autre titre emblématique de la musique algérienne, interprété par Rachid. Écoute-moi, camarade, rendait hommage à Mohamed Mazouni, qui avait chanté l'indépendance en utilisant la poésie populaire et qui avait chanté cette chanson. Et on en parle juste après avec Boualem Sansal. Rachida, dans la librairie francophone.
Écoute-moi, camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends? Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes. Sur l'art à cause d'une fillette, toi qui te crois intelligent. Excuse-moi vraiment, tu es bête, ce n'est pas de ta faute, monsieur Pigeon.
Rachida, écoute-moi camarade, chanson de Mohamed Mazouni sur RTBF la première de la RTS, sur France Inter et sur ici Radio-Canada Première. Boualem Sansal, bonjour.
Bonjour.
Comment était-il perçu Rachida en Algérie? Vous l'avez rencontré, vous l'avez connu?
Oui, d'une manière un peu très, très tranchée. Quoi. Il était l'idole des jeunes. Mais la hantise du pouvoir, parce qu'il est iconoclaste, il tient un discours qui dérange beaucoup. qui heurte les traditions. Et donc, ça le mettait dans une... Il était le porte-voix de la jeunesse. Et il représentait un lien entre l'Algérie et la France, ouais, que beaucoup de jeunes voudraient voir s'établir de manière permanente, et c'est, malheureusement, c'est pas le cas. Mais le pouvoir a tout fait pour l'empêcher de s'installer, de diffuser sa musique à l'intérieur du pays.
Et quel souvenir vous gardez de lui, vous ?
Moi, la dernière fois que je l'ai rencontré, c'était à la fin de l'UMA. Et au moment où on se rencontre, on se salue, une énorme musique démarre, c'est Arraïh qui fait chaque année le fond sonore de l'humanité, la fête de l'UMA.
Ouais.
Je ne sais pas si vous l'avez remarqué.
Non, non, j'ai pas.
C'est presque la musique nationale de la fête de l'UMA.
La fête de l'UMA en France, oui.
Oui, ça résonne de partout. On entend que Rachita.
Alors, c'est pas une chanson de lui en plus. C'est ça qui est étonnant, oui, parce que là, c'est le patrimoine algérien. Oui. Tout le monde croit que c'est de lui, en fait.
C'est une chanson de Dahmal al-Harachi. C'était un vrai poète.
Comment vous le définissez, Rachita, en un mot, Faubolem?
C'est un gentil gars.
Ouais, c'est vrai.
C'est un gentil gars. Il est adorable.
Merci, Boilem.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Avant de parler du roman de Boilem Sansal, la chronique des libraires avec les coups de cœur et les coups de gueule, on change d'ambiance, on va dans le rayon des livres pour la jeunesse, notre séquence jeunesse hebdomadaire, avec cette fois un coup de cœur et un coup de gueule de libraire. Et on va commencer avec la Belgique, Déborah Damblon, c'est à vous.
Ben oui, un coup de gueule, enfin un coup de gueule égoïsto-personnel, hein, Emmanuel, excusez-moi.
Oui, ça
mais
commence
bon,
mal.
Voilà. Oui. Ah, vous avez sûrement remarqué qu'en littérature pour ados, il y a plein de séries. Eh ben moi, je suis fan, j'adore lire ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils attendent de moi, les lecteurs? Que je leur recommande des nouvelles séries. Et donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je lis chaque fois le premier, je dis « c'est super, continuez, allez-y ». Et puis moi, qu'est-ce que je fais? Ben, je lis des nouveaux et je lis jamais la fin des séries. Et je reste sur le carreau et je sais pas comment ça finit. Et ça m'énerve.
C'est le problème des séries. Faut arrêter avec les séries, j'ai toujours dit ça. Bon, Laura Sanchez, pour la Suisse, vous avez un coup de cœur.
Ouais, moi j'ai un album hyper bien à vous proposer. C'est à peu près pour des enfants de 3 à 5 ans, disons. C'est l'histoire de Charles, un drôle de petit bonhomme qui interrompt sa sieste pour faire du canoë. Oh, puis non, il a envie d'une glace. Ah mais non, plutôt de construire une cabane. Tout ça de façon hyper colorée et hyper légère. C'est un album qui s'appelle « Hyper bien ». Signé Fred Fiva et c'est paru au Rouergue.
Merci beaucoup Laura. Dans le rayon des romans contemporains cette fois, on part en France avec Sophie Todescato dans sa librairie d'Orléans.
Oui, moi j'ai lu et beaucoup aimé un livre de Jean Hatzfeld qui s'appelle 2m10 qui est paru chez Gallimard. C'est un très beau roman construit avec un effet de symétrie très élégant autour de quatre personnages qui sont deux hommes, deux femmes, deux américains, deux soviétiques ou plutôt deux kirghizes, deux haltérophiles et deux sauteuses en hauteur parce que c'est de sport qu'il s'agit. Donc forcément de politique puisqu'on sait que la guerre froide, c'était aussi une guerre olympique. Alors c'est poétique, c'est à la fois complètement inventé, c'est sportif, et tout à fait documenté. Et c'est surtout écrit avec une espèce de simplicité très intense qui m'a fait beaucoup d'effet.
Le nouveau roman de Jean Hatzfeld, 2m10 chez Gallimard. Merci Sophie. Au Canada, Jérémy Laniel, un coup de gueule français depuis le Québec, si j'ai bien compris.
Absolument, un coup de gueule sur ce splendide jury du Renaudot qui a cru bon mettre un livre publié seulement chez Amazon dans leur liste pour gagner ce prix Renaudot. Quel gracieux dans cette grande maison d'édition que tout le monde connaît pour laquelle publie Marc Koska et son livre Bande de Français, finaliste au Renaudot. Donc, quelle idée quand même de mettre un livre seulement disponible sur Amazon, grand compétiteur, voire compétiteur déloyal des librairies de part et d'autre de l'Atlantique. C'est complètement ridicule de leur part. Vraiment, on n'a pas pensé très très longtemps lorsqu'on a déjeuné ensemble pour créer cette liste au Renaudot.
Oui, alors le Renaudot, effectivement très critiqué avec cet ouvrage publié par Amazon, auto-édité, qui fait réagir énormément de libraires, on y reviendra peut-être. Il n'est pas finaliste, hein, mais il est sur la première liste du Renaudot. Effectivement, on vous le dit ici, achetez vos livres chez les libraires indépendants et n'achetez pas chez Amazon. Voilà, je vais me faire gronder, mais c'est pas grave. Merci Jérémy.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Boilem Sansal est donc dans la librairie pour son roman Le Train d'Erlingen ou La Métamorphose de Dieu, paru chez Gallimard. Il faut s'accrocher pour lire votre roman, Boilem, et vous avertissez le lecteur dès les premières pages. Vous concevez que ce roman puisse dérouter sur le fond comme sur la forme.
Ouais. Ben, c'est une preuve d'honnêteté. J'avertis mon lecteur. Ce livre est difficile à lire probablement, vous n'arriverez pas au bout. Mais ce que vous, le peu de pages que vous pourriez lire, eh ben, j'espère qu'elles vous donneront à réfléchir.
Ouais.
Voilà, je traite de plusieurs sujets.
Plein de sujets. Vous écrivez, donc, la lecture, si elle s'accompagne d'une véritable méditation, est un acte initiatique.
Oui, je pense, oui. Bon, oui, voilà. On peut lire pour se délasser, pour s'amuser, pour apprendre, mais on peut aussi lire, et c'est intéressant, pour méditer, pour construire sa voix. Donc c'est un chemin initiatique. La lecture est une initiation, je dirais, quasi philosophique. Hein.
Et pourtant, ça part avec une histoire qu'on a l'impression qu'on va suivre, en fait. L'histoire d'Elisabeth Potier, victime collatérale de l'attentat du 13 novembre 2015 à Paris, qui sort du coma en endossant une autre personnalité. Voilà. Sauf que ça se complique, parce que votre récit est comme ça dans un mélange. Il faut se laisser porter par l'écriture, en oubliant complètement les codes traditionnels de la narration et de la cohérence. Tout est imbriqué, tout est mélangé, tout est en pagaille, à l'image du monde.
C'est bien ça.
C'est ça.
On peut faire une gros littérature risque, très lisse qui explique le monde.
Ouais.
Et je crois que ce type de littérature a un côté un peu totalitaire. C'est-à-dire qu'on force la réalité à entrer dans un schéma qui est le sien. Donc sa grille de lecture. La vie, il faut la regarder comme elle est. Elle est très complexe et elle est changeante. Et elle change de figure en fonction du lecteur. La même histoire lue par vous, ça a une résonance. Lui par lui, elle aura une toute autre résonance.
Par Bernard Lavilliers.
La vérité est quelque chose de très mystérieux. Et voilà, je voulais prendre la vie comme elle est, les histoires comme elles sont, et puis laisser chaque lecteur se débrouiller avec.
Bon, parfois il y a en tout cas des étincelles, des fulgurances, un passage qui met en perspective, qui contribue comme ça à la compréhension de la démonstration de votre récit, comme celui qu'a accepté de lire Bernard Lavilliers, c'est ça la surprise, mais comme il s'entraîne depuis tout à l'heure, tout le monde a compris en plateau, sur la musique, Bernard, du film Rue Barbare que vous avez composé. On va envoyer la musique et je vous fais signe.
L'humanité n'existe que par le mouvement des peuples. Et seuls se meuvent les peuples forts, en qui est actif l'esprit d'aventure et de conquête. Si chacun était resté chez lui, à cueillir des baies et à regarder pousser l'herbe, l'humanité aurait disparu, emportée par la consanguinité, l'ennui, l'ignorance, l'obésité, la maladie. Le vrai drame pour un peuple, c'est l'ataraxie. Lorsque meurons-lui le goût de se battre, et c'est ce qui nous arrive, nous tous, tout nous effraie, tout nous décourage. Un bruit, et hop, nous voilà à genoux, tremblants, battant notre coulpe, bafouillant les excuses. Nous ne savons même pas nous tenir sur la défensive, et s'il advient, mourir avec dignité, sinon panache.
Sur ce titre de Bernard Lavilliers, Tangente, un extrait du nouveau roman de Boilhem Sansal. Une réaction, Boilhem ?
C'est formidable. Lu par Bernard, c'est un grand honneur.
Ce livre, c'est un appel à la résistance, Boilhem Sansal. La résistance à quoi ?
Oui, je crois que c'est le thème central, quand même. Toute cette pagaille qu'il y a dans ce roman, elle a un poteau central, c'est la résistance. Quoi.
Mais à quoi ?
À tout.
À tout.
La résistance à la mort, à la vie elle-même, qui nous emporte, à l'autre qui nous envahit, à ce qu'on aime, à ce qu'on déteste. Et on a besoin de résister, on est pour préserver son individualité,
à l'envahisseur
pour ne pas disparaître dans la masse, dans la cohue, tout en se fondant dans la vie et garder son moi, sans lequel l'humanité n'aurait pas de sens. Si je ne m'entends pas, je ne peux pas voir l'humanité. J'ai besoin d'être moi-même pour la voir. Sinon, c'est un brouhaha autour. Voilà. Donc, c'est absolument la résistance est centrale. C'est la vie même.
Il y a deux éléments importants dans votre livre. C'est la notion de métamorphose, avec une allusion à Kafka, et l'envahisseur, l'ennemi mystérieux. Commençons par l'envahisseur, Boilhem Sansal. On pense aux nazis, mais votre récit est contemporain. Alors, on pense aux islamistes. Vous brouillez comme ça les pistes, et puis on arrive à la mondialisation. Tout est lié, tout est dépendant.
Oui, tout est, oui, absolument. C'est une fonction mathématique à plusieurs variables. On ne peut pas les séparer, elles vont ensemble. S'il y a une migration, ben c'est parce qu'il y a de la justice dans le monde. Donc c'est lié à l'économie, c'est lié à la géopolitique, c'est lié aux relations internationales, c'est lié aussi à la nature humaine qui, tout à l'heure vous disiez que l'être humain est un prédateur. Nous sommes des prédateurs et on a besoin aussi d'avancer, de conquérir. Mmh. Se mouvoir, c'est forcément à un moment donné rencontrer l'autre. Et soit on fait ami-ami avec lui, soit on le détruit pour prendre sa place. Donc voilà, le mouvement est fait partie de la vie en même temps qu'il avance, il la détruit. Parce que nous sommes des prédateurs.
Et la métamorphose dont vous parlez, c'est aussi le décalage de nos croyances. Dans les religions elles-mêmes, mais aussi dans les croyances périphériques. Les causes dans lesquelles parfois nous nous engageons. Vous expliquez qu'aujourd'hui, pour exister, on nous incite à croire en quelque chose.
Oui, l'individu a besoin d'une liberté totale, c'est le prédateur absolu, il veut être fort, il veut conquérir, tout ça. Mais la société n'est pas composée que d'êtres forts. Il y a les enfants, il y a les vieux, il y a les malades, il y a... Donc on est obligé, quelque part, de faire l'impasse sur certaines libertés. Pour pouvoir, une troupe qui avance au rythme du plus lent, de l'enfant, du plus faible. Mmh. Elle ne peut pas aller plus vite que cela, sinon elle l'abandonne. Et donc voilà, on s'organise en fonction de ça.
Ouais, voilà. En fonction des croyances.
En fonction des croyances. Une société a besoin d'un minimum d'ordre pour perdurer.
Mais alors c'est quoi ? Il faudrait juste assumer notre condition humaine, comme vous le dites, sans aucune croyance ?
On croit toujours en quelque chose, bah y compris à la non-croyance. La non-croyance, ouais. Le non-agir, c'est agir. La non-croyance est une croyance. Je ne crois rien, est une croyance. Donc, mais quand même, une société a besoin de croire en quelque chose. Pourquoi elle a besoin de croire en quelque chose ? Parce qu'elle doit produire des lois pour réglementer la vie. Et les règlements et les lois ne peuvent pas être... Si on laisse faire la nature, c'est le plus fort qui décidera de ce que sera la loi. Il faut un minimum d'ordre pour construire un système de loi qui agrée un peu à tout le monde.
Même ça, c'est antagoniste avec tout ce que vous dites, Bohème Sansal. Oui, parce que si vous parlez...
La vie, c'est ça.
Ah ben, la vie, c'est ça. Mais là, encore, vous mélangez les choses. Parce que si on parle de loi et de règles, ça veut dire que tout ce que vous démontrez en disant que le monde est une grande pagaille, avec la mondialisation, vous attaquez la mondialisation, vous décrivez les nouveaux esclaves que nous sommes, contraints, je cite, de payer des loyers, de travailler pour de petits salaires et d'acheter de la nourriture, bref, de donner notre temps et notre argent à de nouveaux esclavagistes. Et si on vous suit là, si on parle des règles, des règlements et des lois, ce sont ces mêmes esclavagistes qui les posent.
Oui, absolument, parce que ça, voilà, on se dote d'une croyance. La croyance nous permet de produire des lois, mais on produit des lois imparfaites, qui sont injustes, parce que les rapports de force au sein de la société changent. À un moment donné, c'est les riches qui imposent leur façon de voir. À un autre moment, c'est les populistes. Tout à l'heure, on parlait des populistes. Tout le temps, il faut tout le temps corriger.
Oui.
C'est ça, la vie. C'est au fur et à mesure, on corrige, on change, on s'adapte. Il y a, voilà, les gens comprennent aussi qu'ils doivent faire un effort pour s'adapter, pour négocier, pour réarranger la chose, pour créer de la richesse, pour éviter les tensions sociales. C'est une mécanique permanente. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des gouvernements et qui normalement pilotent la chose au plus près quand ils sont compétents. C'est pas évident.
Ils vous plaisent les gouvernements qu'on a aujourd'hui ?
Pas du tout.
D'accord. Bernard Lavilliers, ça, non ?
Non, je suis du même avis.
Non, Trump, tout ça, non ?
Vous imaginez une seconde que... Mais j'adore Trump, évidemment. Non, mais attendez, ne mélangez pas les Américains avec Trump. Les Américains...
J'ai rien dit, moi. On parle des dirigeants du monde.
Oui, pour l'instant, ils dirigent les États-Unis.
Oui.
Disons qu'effectivement que Trump... Vous savez, il y avait
une
phrase qui disait « Les Américains sont passés de la barbarie à la décadence sans passer par la civilisation.
»
Et lui, il est un peu le symbole de ça.
On va voir les libraires qui vont conclure cette émission, Bohème Sansal. Il y en a deux qui ont lu votre roman, Le Canada et la France. On commence par Le Canada, Jérémy Laniel.
Il y avait effectivement beaucoup de choses dans ce livre. Je me demande même s'il n'y en avait pas un peu trop. Il faut dire que j'ai découvert Sansal il y a à peine un an avec 2084, qui avait été une révélation. Et je le retrouve ici avec ses mêmes manies, mais avec l'impression qu'il est traité parfois un peu plus au feutre qu'au stylo-plume. C'est assez gras. D'un côté, l'urgence d'écrire, de dire, de pointer, tout ça fonctionne. Mais de l'autre, parfois, le livre va un peu dans tous les sens. J'ai l'impression qu'il laisse un peu le lecteur en plan.
C'est compliqué, il l'a dit, c'est le plus exigeant. Sophie Todescato en France. Laurence, qu'en pensez-vous ?
Oui, moi je suis d'accord, c'est de loin le volume le plus difficile de cette trilogie que Boualem Sansal a consacré à l'islamisme et aux croyances, et c'est à cause de la construction, les effets de miroir entre les deux parties nous perdent un peu, rendent le livre labyrinthique. Alors, il faut dire tout de même qu'on retrouve la noirceur et l'ironie et toutes vos qualités d'écriture, de précision d'écriture, mais c'est un livre un peu inhospitalier, on est un peu comme un rat dans un laboratoire.
Mmh. C'est bien d'être un rat dans un laboratoire. Mmh,
c'est vous qui le dites, oui.
On se fait violence un peu. En tout cas, on s'est fait violence et vraiment, c'est un livre étonnant, Boualem Sansal, un gros risque. Félicitations quand même, parce que c'est pas évident de sortir ça à la rentrée littéraire.
C'est très compliqué. Ouais.
Vous vous y retrouvez, vous l'avez relu ou pas?
Oui. Relu, non, mais je l'ai en tête. Donc
vous comprenez tout?
Bah, moi, j'ai les clés, évidemment, pour le lire de manière linéaire, oui. Mais je l'ai fait dans le but de dérouter le lecteur. La vie est déroutante. Bon, il faut cesser de la voir comme si c'était une photographie figée bien qui ne bouge pas.
C'est presque une expérience littéraire, en fait.
Et donc, c'est...
Expérience artistique.
Voilà.
Ouais. Bon, merci, Boualem Sansal. Le train d'Erlingen ou la métamorphose de Dieu est paru aux éditions Gallimard. Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici le chanteur français Danny Terreur et un extrait de Colosse de Rhodes.
Ils font la ronde autour de toi. Ils dansent, ils hurlent, ils sont fous de joie. Entre les dunes, la pleine lune. Ce soir, mon chat, c'est l'hymne à la joie. La foule gronde, ils sont fous de toi. Entre les tours, la fumée tourne. Embrasse le ciel dans un feu de joie.
Danny Terreur, Colosse de Rhodes, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous à la réalisation Hélène Bisio avec Mathias Saléon. Merci beaucoup Bernard Lavillier. C'était un grand plaisir de vous retrouver.
Merci beaucoup.
À très bientôt. Adeline Dieudonné, bonne chance.
Merci.
Pour cette rentrée. Merci Boualem Sansal. À la rédaction Jean-Philippe Véré avec Christophe Magère en France, Martine Béguin-Felé et Annick Chouin en Suisse, René Miquil, c'est Valérie Lputin en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, Éric Fotorino, Catherine Meurice et David Goudreau seront avec nous et vous entendrez une rencontre inédite entre Romain Puertolas et le réalisateur Patrice Lecomte sur le thème du cinéma. Passez une bonne semaine, un bon week-end. À bientôt, salut.